Très bien, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette session des Tech Days. Donc nous allons parler communication. Donc on est là dans un séminaire plutôt technique, en parlant des technologies Microsoft, de Windows 8, de Visual Studio. Cette session, en fait, on va plutôt parler donc de communication, mais de communication autour d'un projet, d'une réalisation d'un projet de développement informatique en utilisant en fait des outils intégrés à TFS 2012 et à Visual Studio 2012. Donc rassurez-vous, on va quand même parler technique. Donc la session s'appelle « Améliorer votre communication client grâce à Visual Studio et TFS 2012 » en utilisant donc les outils de storyboard et de feedback manager. Donc je suis Sylvain Gross de la société Neos SDI. Donc, je suis MVP sur l'ALM, également en charge donc du développement sur l'aspect delivery de notre filiale suisse, donc Neos SDI Suisse. Donc, en deux mots sur Neos SDI, donc nous sommes une société de services pure player Microsoft, donc qui a été créée il y a une dizaine d'années en France, et donc depuis un an, nous avons développé donc une filiale sur Lausanne, donc sur la Suisse. Donc, avec un positionnement donc pure player Microsoft, c'est-à-dire que nous nous focalisons uniquement sur les différentes technologies de la plateforme Microsoft. Donc, que ce soit sur le domaine applicatif, sur le domaine collaboratif, sur la partie BI, sur l'infrastructure, sur la gestion de projet, l'ALM, la PLM et également la CRM. Donc au niveau de la Suisse, nous avons un positionnement plus particulier sur tout ce qui tourne autour en fait de la gestion de projet au sens large, hein, donc avec avec Visual Studio, Project Server, TFS 2012 et sur la CRM, avec tous les outils, bah, notamment collaboratifs qui gravitent autour, donc avec SharePoint par exemple, sur lequel on travaille. Voilà, donc maintenant que tout le monde est là, donc je vais vous présenter notre agenda. Donc pour toute question ultérieure à la session, donc de toute façon on aura une session de questions-réponses. Donc je vous laisse mes coordonnées ici, hein, téléphone, email. J'ai également un Twitter, donc c'est Sylvain Gross Neo. N'hésitez pas à me contacter pour toute question technique ou autre suite à cette session. Si vous mettez en œuvre en fait l'outil que je vais vous présenter, que vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à me contacter pour voilà, un petit peu vous aider à vous lancer. D'abord, avant de démarrer vraiment l'agenda, un petit sondage. Qui parmi vous utilise des démarches agiles pour ses développements informatiques? D'accord. Qui travaille déjà avec la plateforme TFS et Visual Studio? D'accord. En version 2012? Okay. Donc, nous allons parler uniquement de la plateforme 2012, donc ça tombe bien. Donc, au niveau de notre agenda, tout d'abord, un rappel de ce qu'est Visual Studio 2012 avec la partie ALM, voir son positionnement, ce qu'il nous apporte, comment ça se place finalement dans notre cycle de développement logiciel. Ensuite, nous allons consacrer donc une grande partie à la partie storyboarding, donc déjà définir ce qu'on entend par storyboarding et finalement voir ce que ça permet, la manière de mettre en œuvre un scénario de storyboarding. Et enfin, donc une démonstration, évidemment, de l'outil. Ensuite, sur le Feedback Manager, donc pareil, nous consacrerons un peu de temps. Et après, bon, une fois que vous aurez bien vu l'intérêt, finalement, de cette plateforme, quelques mots sur comment mettre ça en place, finalement, dans vos entreprises, si vous le souhaitez. Aussi bien d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue licence. C'est toujours intéressant de savoir, finalement, ce qu'il faut faire pour franchir le pas. Et donc, un petit peu de temps après, autour des questions-réponses, si vous en avez, donc je vous invite à m'en poser. Donc, Visual Studio 2012 et l'ALM, Donc avec la version 2012, l'agilité en fait n'a jamais été aussi facile à mettre en œuvre dans un projet. Donc il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites. Vous allez sans doute en voir par rapport à l'aspect purement développement. Maintenant, on va nous plutôt parler du côté méthodologie, de la manière finalement de mettre en œuvre les projets dans un mode agile. Donc en fait, l'idée de Visual Studio, c'est de permettre la mise en place en fait d'un cercle vertueux, c'est-à-dire un cercle où finalement on est en perpétuelle amélioration de nos processus, de nos applications, et on travaille finalement de mieux en mieux. Donc sur la partie à votre gauche, on a la partie vraiment développement, où on va partir finalement en haut d'un product backlog. Donc on verra un petit peu Scrum dans 2 minutes. Donc en gros, c'est la liste des fonctionnalités en fait de notre application qui est donc dans un tableau. Et finalement, on va planifier chacune de ces fonctionnalités en tenant compte des capacités de nos équipes. On va planifier, on va créer des itérations. On va exécuter notre sprint, donc faire vraiment notre travail de production de code, pour obtenir à la fin un logiciel finalement opérationnel. À partir de là, c'est une des avancées de 2012, on va pouvoir, jusqu'à présent, en fait, on s'arrêtait ici. C'est-à-dire que voilà, on a fait notre développement, le produit est bon, est livré, maintenant, allez-y, envoyez ça en production. Ce n'est plus trop notre souci. Maintenant, grâce à la plateforme 2012, on continue à gérer notre cycle de vie. Il ne faut pas oublier que l'ALM, ça s'appelle Application Lifecycle Management. Donc, une application ne s'arrête pas de vivre au moment où on la livre. Je dirais même presque, c'est là où elle commence vraiment à rendre ses services, et donc il faut continuer à la gérer par après. Donc, on va déployer ça en production. Donc, on va en fait travailler en collaboration avec des outils qui nous permettent de gérer notre exploitation de nos postes, donc avec SCOM notamment, donc System Center Operation Manager. Et donc, TFS dispose d'un connecteur qui nous permet finalement de prendre nos livrables, de les déployer sur les postes, de gérer le versionning, les mises à jour, de collecter d'éventuels bugs si on en rencontre, etc., etc. Ces différents bugs vont finalement revenir sous forme soit d'exigences, soit sous forme de bugs, et finalement enrichir notre liste de choses à faire par le logiciel. Donc de cette manière-là, on a vraiment une boucle, enfin un asservissement en fait complet de notre application, et on est au contact finalement du terrain, et on récupère finalement les informations d'utilisation, et on peut améliorer donc notre logiciel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tableau. Vraiment avec un zoom arrière pour permettre vraiment tout ce qu'on peut faire avec la plateforme. Nous, on va être dans un mode un peu plus proche du terrain, en travaillant en fait uniquement sur la partie production, avec une méthodologie qui s'appelle Scrum. J'ai pas fait de sondage qui travaillait déjà avec Scrum. D'accord, c'est quand même une forte proportion. Donc Scrum, j'ai quand même souhaité clarifier un petit peu le vocabulaire pour ceux qui ne sont pas forcément hyper habitués de travailler avec Scrum. Donc comme je le disais avant, en fait, on part d'une liste de fonctionnalités, donc on appelle ça des user stories généralement, où en fait on va dire en tant que utilisateur, je souhaite passer une commande sur le site afin d'être livré. Voilà, ça c'est le libellé d'une exigence. Et on va faire finalement notre application, on va la définir sous forme de user story. Ça va donner en fait un product backlog. Après, on est bien conscient qu'en fait on ne va pas pouvoir réaliser tout en même temps. Par contre, le client a envie de voir très rapidement à quoi va ressembler son application. Donc on va découper notre application en de petites itérations, qu'on appelle des sprints. On va prélever un certain nombre de fonctionnalités, on va les développer pendant un temps court, généralement 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, pour arriver à la fin de ce cycle à un logiciel déjà testable, déjà opérationnel. Donc c'est le principe de Scrum, où on va beaucoup travailler avec le client, en collaboration avec lui, et pour vraiment produire un logiciel qui colle à ses besoins. Donc pour rappeler finalement le vocabulaire, donc on a le sprint, Donc c'est une itération courte qui permet d'obtenir à la fin donc un logiciel testable par le client. Le backlog, donc il s'agit d'une liste soit d'exigences, soit de tâches, ça dépend si on est en sprint ou en produit. Donc une liste finalement de choses à faire. Et donc Scrum, voilà la définition. Donc il s'agit de la méthodologie proposée par défaut dans Visual Studio, enfin dans TFS 2012. Donc quand vous créez un nouveau projet, vous avez tout le support d'une méthodologie Scrum. Donc, comment on va mettre en œuvre Scrum ? Donc, on le verra en démonstration. Je vais simplement vous présenter quelques points particuliers. Déjà, avec ceux qui sont habitués de travailler avec TFS 2010, on a vraiment un changement d'interface qui est très, 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 très fort. Cette interface web, donc c'est vraiment l'interface qui est dédiée au projet. On a vraiment accès à toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin pour piloter son projet. On a ici des tuiles qui rappellent assez furieusement une interface d'une nouvelle version de Windows, où on va pouvoir présenter un certain nombre d'informations, par exemple le nombre de change sets qui s'est produit dans la journée ou dans le sprint. Ici, le nombre de tâches qu'on a dans le sprint backlog. Le nombre de feedbacks en cours, enfin, il y a certains de ces points qu'on va pouvoir développer en démonstration, le nombre de code review, de bugs, etc. Ici, la courbe, finalement, enfin le burn down chart, ce qui présente finalement l'avancement de notre projet, le nombre de tâches qui sont closes au fur et à mesure en fonction du temps. Et puis différentes choses qui nous permettent d'ajouter des membres du projet, d'administrer les itérations, le planning, etc. Donc vraiment un tableau de bord complet pour permettre de gérer notre projet en mode web. Donc il y a quand même un sérieux lifting qui a été opéré en fait à notre interface web de TFS qui rend vraiment l'outil extrêmement pratique et facile d'utilisation. Ce n'est pas tout. On permet en fait, avec notre interface web, vraiment de supporter la gestion de projet en mode Scrum, de manière très visuelle. Avant, on pouvait déjà faire du Scrum, on avait des tableaux Excel qui nous permettaient donc de changer les statuts de nos exigences, de gérer les assignations à telle et telle personne. C'était pas forcément hyper ergonomique. Il y avait pas mal de travail, de rafraîchissement, des choses comme ça à faire. On perdait un peu de temps. Là, maintenant, on invite vraiment les gens à utiliser Scrum parce que c'est vraiment ce qu'il va y avoir de plus facile, de plus pratique. Donc, on va avoir ici une gestion du sprint backlog où on a l'ensemble des exigences qui sont ici, l'ensemble des user stories. Ici, il s'agit de tâches en bleu où on va avoir un certain nombre d'informations dessus, façon vraiment post-it. Hein. Et là, on a les différents statuts que peut prendre notre tâche. Donc ça nous permet vraiment de gérer au quotidien. Voilà, je prends cette tâche, je la mets en in progress, je travaille dessus, je saisis du temps, et dès que j'ai terminé, je la mets dans la partie done. Et donc notre gestion finalement des exigences et des tâches va être vraiment très très rapide. On a une autre vue de la même chose, c'est le même principe, sauf que là, dans l'axe, ici, on va avoir les différentes personnes, les différents membres de l'équipe, avec, pareil, les statuts. Hein, et c'est interactif, c'est-à-dire que je peux prendre ce post-it et le mettre ici, in progress, et ça va changer automatiquement les champs dans le work item correspondant. Donc c'est vraiment, c'est très très pratique, très facile d'utilisation. Et je vous propose de le montrer dans une rapide démonstration. Donc là, une machine virtuelle. Donc vous voyez bien, il y a une tête qui dépasse, mais c'est pas grave. Donc ici, on est vraiment sur le web access en fait de notre projet qui s'appelle Fibercam Web Team, où j'ai ici les différentes informations. Donc là, déjà une information qui parle de capacité. En fait, je vois ici que sur 34 heures, j'ai de disponible, j'ai 28 heures qui sont affectées. Donc j'ai cet affichage sous forme de bar graph. J'ai mon burn down chart ici. J'ai mes différentes tuiles avec les différentes informations, une possibilité d'accéder à des activités, voir le backlog, voir des work items, demander des feedbacks, c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Rajouter par exemple des nouveaux membres à l'équipe. Hein, donc ça va se faire très, très simplement ici. Voilà, si là je validais, j'aurais tout de suite une nouvelle personne qui serait disponible dans mon équipe. Donc elle y est déjà, donc je vais pas aller au bout. Voilà. Donc on voit que c'est bon, très 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 visuel. Donc si on regarde d'un peu plus près, on va regarder par exemple le product backlog ici. Donc là, j'ai l'ensemble des exigences de mon application. Ensuite, on peut regarder l'historique des différents check-ins qui ont été faits, enfin des différents change sets, c'est-à-dire les modifications qui ont eu lieu sur le code source. Donc là, vraiment, jour par jour, on voit vraiment à chaque fois qu'une personne a fait un archivage de code source, donc il aura mis des commentaires, bah, tout va pouvoir apparaître ici. Donc avec ça, on imagine très bien une équipe, enfin c'est ce qu'on a déjà mis en place chez un client. Un projecteur comme celui-là qui va montrer finalement en temps réel à toute l'équipe qui travaille sur un open space, voilà ce qui se passe sur le projet, qui a fait le check-in, le nombre de bugs. Et vraiment, c'est un outil de pilotage et de. Enfin, tout le monde est vraiment impliqué après dans le projet. On voit vraiment où on en est et ça dynamise bien les équipes. Donc ici le sprint backlog. Voilà, ici on voit que sous chaque exigence, on a un certain nombre de tâches qui sont ici. Là, je vais avoir une représentation maintenant sous forme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc les différentes exigences qui sont là, les tâches, et on peut facilement les glisser-déposer ici. Pour passer d'un état à l'autre. D'accord? La même vision. Bon, là, j'ai fait à peu près n'importe quoi, mais c'est pas bien grave. Voilà. On va pas aller plus loin dans les outils d'agilité, c'est pas le cœur de la démonstration, mais je trouvais dommage de ne pas vous montrer ces outils qui introduisent bien finalement la partie d'après, où on voit finalement qu'on est vraiment dans un environnement collaboratif où tout le monde participe au développement, où donc la communication va être importante. Donc c'est ce qui va me donner la transition pour la suite. Donc, le storyboarding, finalement, c'est ce qui pourrait résumer finalement ce que l'on souhaite faire avec cet outil, c'est un dessin vaut mieux qu'un long discours. Souvent, c'est quand même beaucoup plus facile d'exprimer ce que l'on souhaite en dessinant quelque chose plutôt qu'en faisant une longue description. On n'est pas forcément littéraire, ou on peut l'être, mais ça n'empêche pas. Par contre, d'exprimer les choses par dessin, on peut tout de suite réagir dessus. Donc, c'est vraiment ce que permet l'outil de storyboard. Donc tout d'abord, storyboard, c'est quoi quel est ce mot? Donc comme je voulais savoir, je suis allé voir sur Wikipédia. En fait, il s'agit c'est un terme parfois francisé en scénar image. Moi, j'ai préféré garder la notion de storyboard, qui est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. D'accord? Donc il s'agit d'un document technique. Généralement utilisé au cinéma en pré-production afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film. Ok, donc ça, on est dans le cinéma. Là, nous, on est plutôt dans du développement informatique. Il y a quelques mots à changer, et puis finalement, ça colle parfaitement à ce qu'on veut, quoi. D'accord? Donc, c'est simplement la représentation illustrée d'une application avant sa réalisation. C'est un document technique qu'on va utiliser en développement logiciel. D'accord? Donc, l'idée, elle est vraiment là. Voilà, de dessiner non pas seulement la maquette d'écran, mais on va également pouvoir représenter la cinématique d'utilisation. Je clique ici, j'ai tel écran qui arrive, il aura telle forme, telle couleur, etc. Donc comment ça va se passer de manière concrète? Donc en général, on récupère des spécifications fonctionnelles. Donc c'est des spécifications, enfin réelles, hein, c'est tiré d'un exemple réel parce que c'est moi qui l'ai fait. On a ça, oui, donc c'est caché. Le but, c'est finalement d'obtenir une application. Mais comment obtenir ce travail-là? Là, j'ai plein de textes. En tant que tel utilisateur, je voudrais faire ceci et cela, mais ça ne me donne pas le rendu visuel de l'application. Ou alors, il faut aller extrêmement loin et on va très très verbeux et pas forcément très très efficace. Donc l'enjeu, finalement, c'est de capturer les exigences claires et concrètes. Donc pas de long discours, on veut vraiment quelque chose d'efficace qui exprime tout de suite ce que l'on veut. On veut produire un logiciel qui répond aux exigences et qu'on ne passe pas à côté, en fait. L'idée, c'est quand même d'être réactif. C'est-à-dire, quand on va faire des maquettes, ça va peut-être susciter des idées chez le client. Ah oui, on pourrait mettre cette fonction ici. On n'a pas forcément prévu ça. Et là, on enrichit finalement la valeur de l'application et finalement ses bénéfices pour tout le monde. Donc la solution, donc c'est un outil donc de storyboarding que je vais vous montrer. Ça va être de prototyper l'application, de faire de la modélisation finalement de l'écran et d'avoir à la fin finalement un livrable. Hein, on ne va pas parler en l'air, on va obtenir à la fin un document PowerPoint qui va nous permettre vraiment, qui va nous servir de spécification et de maquette d'écran de manière très très rapide, etc. Donc en termes de processus, bon, c'est extrêmement simple. Donc je pars de mon backlog. J'anime des ateliers. Donc nous, en tant que prestataire, ou vous, en tant que chef de projet, ou Scrum Master, etc., vous animez un atelier avec des fonctionnels. Vous utilisez PowerPoint, un outil très visuel, très facile d'utilisation, qu'on utilise de toute façon tous les jours. Donc il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose de, enfin, un nouveau produit. Et à la fin, vous avez une exigence. Donc, on va toujours partir de notre user story de départ. Et on aura en pièce attachée à ce user story un fichier PowerPoint qui sera stocké sur le SharePoint de votre projet avec vraiment le détail de l'écran que l'on veut, ou des écrans que l'on veut réaliser. Donc, je vais appliquer le principe qu'un dessin ou une démonstration valent mieux que de longs discours. Donc, on va passer en démo. Donc je reviens ici à ma machine virtuelle et on va ajouter un nouveau product, enfin un backlog, donc une exigence. Voilà, on la signe, on verra qui tout à l'heure, ou peut-être, allez, je me la signe tout de suite. Voilà, donc j'ai une nouvelle exigence ici, et ce que je souhaite faire, c'est de la prototyper. Donc je vais ici dans, vous le voyez bien, voilà, donc j'ai un petit onglet qui s'appelle Storyboard ici, avec un lien ici qui me permet, je vais simplement devoir le rouvrir, attendez un instant. Oui. Voilà, donc je lance l'outil de storyboarding, il me demande voulez-vous autoriser, etc. Là, je vais avoir PowerPoint qui va s'installer, et on voit ici un volet un peu particulier. Donc c'est le volet qui s'est installé avec mon outil Visual Studio, où j'ai en fait des briques de base qui me permettent vraiment de modéliser une application. Donc j'ai une barre de tâches, une application de type ruban, donc je pourrais la mettre ici, voilà. Et j'ai, de cette manière-là, je vais pouvoir finalement dessiner mon application en mettant voilà, des boutons, voilà, dessiner ce que je souhaite faire. Donc moi j'ai un peu préparé le travail, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir même de blocs déjà bien prédéfinis. Par exemple, vous avez dans votre entreprise déjà une charte graphique qui correspond vraiment à vos couleurs, à vos layouts de pages, etc. Donc on va pouvoir faire une capture d'écran et l'importer ici dans l'outil de storyboarding. On peut faire ici des screenshots, et ce screenshot, en fait, après, va être ici rangé dans mes formes de base, dans My Shapes, pour pouvoir les réutiliser pour mes futurs développements. Donc c'est ce que j'ai fait là. Donc on va même procéder de la manière différente. Donc ce qu'on veut... non. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc j'ai ma master page. Donc c'est... Voilà. Et je veux, comme première page, mes gens arrivent... On arrive là-dessus. OK. Très bien. Maintenant, ce que je souhaite faire, donc, c'est que les gens se loguent. Donc quand on se logue, on va finalement cliquer sur un bouton et... Toujours sur cette même master page, on va avoir ici, on va rajouter nos contrôles qui nous permettent donc de saisir login et mot de passe. Voilà. Donc on peut aller assez loin même dans le détail. On peut préciser, je ne sais pas si on veut quelque chose de manière un peu transparente. On peut utiliser vraiment PowerPoint de manière totalement habituelle. Voilà, après on ajoute le bouton. Il doit être un peu plus haut. Voilà, il est ici. Voilà, donc voilà, donc il n'est pas très très bien aligné. Donc là, mon client va me le dire, attends, je veux aligner mes contrôles. Et à la fin, je vais me retrouver à nouveau là-dedans, avec cette fois, on va être identifié. Donc si je reprends le scénario complet, j'arrive sur mon application. Je suis totalement anonyme et j'ai envie que les gens se connectent dessus. Donc, ils vont cliquer sur Customer Login. Pour bien matérialiser ça, on dépose un contrôle ici qui est un clic de souris et on voit qu'il me demande des choses par rapport à l'animation de ce contrôle. Donc, on va renseigner ça. Donc, on définit notre point de départ et notre point d'arrivée. Je vais peut-être monter ça un petit peu. On peut définir même la trajectoire. Enfin voilà, on peut aller très très loin. Donc on clique dessus. Finalement, on se retrouvera ici. Donc là, on va pouvoir modéliser, enfin si on allait au bout hein, de la démonstration, un autre clic là-dessus qui nous permettrait d'arriver après sur cet écran avec ici un changement des informations sur la personne connectée. D'accord ? Donc c'est vraiment très très simple comme exemple. On peut, enfin normalement c'est fait pour des cas un peu plus compliqués. Mais bon, vous imaginez bien derrière les possibilités que vous aurez de travail vraiment pendant en 4 heures avec un client, tous les écrans que vous arriverez finalement à définir avec lui. Voilà, on aura vraiment un prototypage complet d'une application réalisable très très rapidement. Donc lorsque c'est fait, on va sauvegarder notre travail. Donc on ne va pas le sauvegarder n'importe où par contre. Donc ça se passe sur l'espace documentaire du projet. Alors, je retourne ici. Donc on lui donne un nom. Hein. Voilà, ça, je l'enregistre. On nous demande, voulez-vous lier ce storyboard tout, enfin, auprès du, enfin, avec notre user story qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on dit oui. Voilà. Donc, le lien est fait. On va refermer PowerPoint. Voilà, un petit refresh ici. Voilà, je retourne dans mon product backlog. Je fais un save and close. Il a l'habitude de prendre un certain temps pour se rafraîchir. Voilà. Donc ici, je peux l'ouvrir. Et on va de nouveau ouvrir PowerPoint avec ce que l'on a stocké. Donc là, bon, évidemment, c'est moi qui fais les deux opérations, mais cette opération d'ouverture du storyboard tel qu'on l'a réalisé, on peut la faire depuis Visual Studio. Hein, donc ça va être le développeur qui, au moment de développer, va avoir donc son double écran. Sur un des écrans, il va mettre finalement sa maquette, et sur l'autre, il aura Visual Studio. Et voilà, il va coder son application conformément aux spécifications de notre maquette. Voilà, je pense que c'était ce que je voulais vous montrer. Je vérifie. Voilà. Très bien. Voilà, donc on a vu le maquettage d'écran. Maintenant, c'était un outil en fait qui nous permet de faire en amont, donc d'établir une communication en amont avant que le développement soit réalisé. On va dire au client, voilà, que souhaites-tu obtenir ? On va le faire parler, mais en phase donc avant la réalisation. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est lorsque la réalisation est en cours. Qu'il puisse également s'exprimer sur ce qu'on produit pour lui. Quand on est en mode agile, on n'attend pas 6 mois avant de montrer notre application au client. On montre notre application au fur et à mesure. Alors, de manière officielle et formelle, à la fin d'un sprint, mais on peut faire vraiment de l'intégration continue, du déploiement continu, et permettre au client en permanence de tester son application, parce que c'est son application en réalité, et qu'il nous donne son avis dessus. Il vaut mieux qu'au fur et à mesure, il nous apporte des idées de correction, plutôt que de se récupérer à la fin avec une très très grande liste d'anomalies ou de choses qu'on n'aurait pas bien compris. Voilà, le but, c'est quand même de lui fournir une application qui corresponde vraiment à ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite avoir ? Donc, on a une application qui est, voilà, elle est réalisée. On aimerait capturer le retour du client, qui nous dise, voilà, l'application est pas mal, mais par contre, là, la couleur ou la forme du logo ne me convient pas. Il va falloir retravailler ça. Donc, finalement, c'est avoir au bon moment le retour du client pour pouvoir agir le plus tôt possible. Parce que c'est ça, finalement, quand le client voit qu'on va vraiment prendre en compte ses vrais besoins, il va tout de suite adhérer beaucoup plus à notre application. C'est quand même souvent un des enjeux, c'est de faire des applications dans lesquelles finalement les différents utilisateurs se reconnaissent et qu'ils arrivent à se l'approprier. Avec un outil comme le Feedback Manager, vous facilitez vraiment le processus d'appropriation finalement de l'application par vos clients. Voilà. Donc, on va voir de quelle manière ça se passe. Donc on a l'équipe de développement qui va à un moment donné demander au client, voilà, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de cette application. On peut faire également des déclarations, enfin des feedbacks spontanés, mais dans notre scénario, c'est une demande qui est poussée par l'équipe de développement. Voilà, on a changé finalement la forme de notre écran, on a fait différentes choses. Qu'en penses-tu ? Donc, on prépare un formulaire. Hein, donc, depuis notre interface web, on va demander un nouveau feedback. On remplit un formulaire dans lequel on va dire déjà qui doit effectuer ce feedback. on va lui donner quand même quelques indications. Est-ce qu'il s'agit d'une application web, d'une application remote ou d'une application client lourd? On va lui fournir l'URL et, enfin, pour lancer son application, tant qu'à faire, et lui donner quelques informations sur la procédure à suivre pour la lancer. Et après, on va lui demander un certain nombre de choses à vérifier. Vérifie la thème, les couleurs, la disposition de l'écran, etc. Donc on va pouvoir mettre plusieurs items dans une demande de feedback. Le client va recevoir un mail qui va contenir finalement les informations qui vont lui permettre de tester cette application. Donc l'URL avec tout ce qui va bien finalement pour lancer l'appli. Du côté du client, donc il va recevoir effectivement un mail. Il va pouvoir lancer l'application grâce à la petite URL qu'on lui a indiquée, et il aura en fait à sa disposition un outil qui permet de saisir différents feedbacks, effectuer des captures vidéo, des captures d'écran. Il peut apporter même des commentaires oraux pour voilà faire un commentaire en live qu'on va pouvoir écouter. On va pouvoir faire des dessins, rajouter du texte, effectuer un rating, vraiment dire c'est super, ou alors là, non, il faut que tu reprennes tout. Donc voilà, de manière très 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 simple. Et donc après, le client valide finalement son feedback. Et on récupère ça sous forme de work item dans l'interface dans TFS. D'accord ? Et là-dessus, soit on décide de prendre en compte notre feedback en créant une nouvelle exigence, en créant un nouveau bug qui va déclencher donc des tâches de correction de ces bugs, soit on discute avec le client pour lui dire attention, là, il va y avoir un impact, est-ce que vraiment vous êtes sûr de ce que vous souhaitez avoir, enfin voilà, qu'on entame un dialogue, c'est quand même le but. Voilà, donc on va passer à la démonstration. Voilà, donc là, on peut fermer PowerPoint. Donc, tout démarre de la page d'accueil, finalement, du projet. Et on a un lien ici qui est Request Feedback. Donc, déjà, on va demander qui est la personne qui doit effectuer le feedback. Donc, moi, dans mon cas, c'est lui. Quelle est l'application à tester? Donc, on va la lancer pour pouvoir copier notre URL. Donc là, il s'agit d'une application de ticketing. Et on décrit finalement quel est le but de notre feedback. Et ensuite, on spécifie les différentes étapes à valider quoi. Voilà, on pourrait en ajouter d'autres, d'accord. À partir de ce moment-là, on va déjà faire un preview pour voir finalement le mail que la personne va récupérer. Voilà, donc une demande polie l'invitant à effectuer un feedback. Il y a un petit outil que le client doit avoir installé sur son poste pour pouvoir effectuer le feedback. Donc il peut s'installer depuis ce lien. Okay, donc là, tout va bien, on envoie. Donc voilà, ça part dans TFS. Le temps que donc j'ai un petit serveur de mail qui va récupérer un mail, donc ça met quelques instants. Donc il n'est pas encore tout à fait présent. Ok, donc là le mail est arrivé. Donc là, on imagine je suis Brian, hein, qui a reçu la demande de feedback, hein, et je clique ici sur le lien. Voilà, donc on voit qu'on a un petit outil qui se lance. Donc là, je vais fermer Outlook pour plus de clarté. Voilà. Donc voilà, lancer l'application, vérifier le thème graphique. Ok, donc je lance l'application. Voilà, donc on voit, j'ai rien de spécial à faire. Ok, donc c'est bon, je fais un next pour passer aux instructions suivantes. Donc, premier item à vérifier, la couleur du thème, vérifier la couleur de fond, des polices, etc. Ok, ça me paraît pas mal. Donc là, on peut effectuer un enregistrement vidéo. On imagine, c'est voilà, pouvez-vous tester la cinématique de l'application, par exemple? Donc là, on pourrait enregistrer notre séquence. Je crée un nouveau ticket. Voilà. C'est pour vous montrer après justement l'enregistrement vidéo. Voilà, donc on va ensuite retourner à notre liste. J'arrête l'enregistrement. Je peux commenter de manière textuelle finalement mon feedback. Je peux donner un rating, donc dire voilà, c'est pas mal, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire des captures à noter éventuellement avec Paint, hein, donc pour vraiment faciliter après l'analyse. Voilà, donc je fais Submit and Close. Voilà, et donc là, on va pouvoir ensuite retourner dans mon interface projet en tant qu'équipe de développement. Donc là, je vois qu'au niveau feedback, au niveau des tuiles, hein, il y a eu un rafraîchissement. Ça rappelle une démonstration qu'on va faire demain dans une session l'après-midi. Ouais, ici, est-ce que c'est bien celle-là? Je ne voudrais pas tricher. Oui, donc c'était bien ça. Donc là, on est de nouveau à l'équipe de développement. Je recueille le feedback du client qui dit que les couleurs sont OK. Ah, il m'a mis une capture vidéo. Je l'ouvre. Et je peux analyser ma séquence vidéo. Donc on peut noter que la vidéo n'a pas grand rapport avec le feedback demandé, mais le but c'est vraiment de permettre au client de s'exprimer, même sur des choses qu'on ne lui a pas réellement demandé. Là il va pouvoir peut-être signaler un autre problème qu'il a vu. Mais c'est comme ça le but de l'application, enfin de cette fonctionnalité. Voilà, donc là j'ai la vidéo qui va s'arrêter. Voilà. Ok. Bien. Donc c'est tout pour cette démonstration. On va revenir à la présentation. Donc maintenant, on a vu que finalement ces différents outils, entre les outils d'agilité, les outils de storyboarding et les outils de feedback manager, voilà, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Comment finalement me mettre à ça, sachant que pour l'instant, tout ce que je fais, j'utilise Visual Studio pour créer mes applications. Voilà, c'est pas forcément la manière dont on peut s'y prendre finalement pour y arriver. Donc j'ai fait un petit diagramme ici qui permet de montrer, je vais tout afficher à la fois, ce sera plus facile, peut-être pas trop vite non plus, voilà, qui indique finalement le niveau de complexité finalement de chaque entreprise. Soit on est dans un mode peu complexes, c'est-à-dire avec des toutes petites équipes, avec une seule personne, soit des entreprises un peu plus développées, plus d'équipes. Et là, vraiment, on a des processus beaucoup plus avec de la gouvernance sur les projets. Et là, on va voir finalement ce qu'on est capable de faire avec Visual Studio. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de démarrer tout de suite l'ALM par la fonctionnalité la plus extraordinaire, le connecteur SCOM, par exemple. Enfin, non, on commence doucement, mais sûrement. Donc, quand on est déjà dans une équipe, au niveau individuel ou petite équipe, on va déjà commencer par travailler à mettre en place, finalement, le contrôleur de code source, les tests unitaires. Voilà, c'est déjà la base, et on commence l'ALM par ça. Si ensuite, on arrive à des équipes un peu plus importantes, où on demande un petit peu plus de reporting et de communication, on va travailler plus sur les côté agilité, avec les builds, l'intégration continue, avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les différents post-it qui nous permettent de gérer nos exigences de manière agile. On va pouvoir utiliser le feedback manager, le storyboard. Et après, si on est vraiment à un niveau beaucoup plus important, où on va gérer nos projets depuis un PMO qui va décliner nos différents projets, qu'on a une notion de programme, des reporting à faire, des KPI, etc. On va pouvoir encore utiliser d'autres fonctionnalités que permet la plateforme avec des outils de gouvernance BI. On va pouvoir croiser des informations des cubes TFS, des cubes Project ou CRM. On va pouvoir mettre en place le connecteur entre TFS et Project. C'est des choses qu'on peut facilement mettre en place. Le Lab Manager, le DevOps, comme je vous ai montré tout au début. Voilà. Donc, en fait, l'ALM est accessible à partir de n'importe quel stade où vous vous trouvez actuellement. Il faut y aller, il faut y aller de manière pragmatique. On est habitué, de toute façon, à accompagner les clients pour ne pas leur faire franchir un pas trop important. Il faut y aller de manière pragmatique et petit à petit, on grimpe finalement dans notre, quelque part, notre maturité en termes d'outils de production logicielle. Donc ça, c'est le côté plus méthodologie et manière finalement d'y aller. Évidemment, il y a un autre aspect qui est le côté licensing. Donc nous, on ne vend pas de licence, mais c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Ce qu'il faut avoir comme outil finalement pour mettre en place tout ça. Donc on voit que ce qu'on a vu, donc l'outil de PowerPoint Storyboarding, gestion du feedback, ça va être disponible dans les éditions Ultimate et Premium, pas dans la version Pro, d'accord. Par contre, les outils d'agilité sont déjà disponibles dans la version Pro, d'accord. Donc ce tableau résume finalement les différentes fonctions, de manière très simplifiée. En réalité, le tableau est beaucoup plus étoffé que ça. J'ai voulu mettre l'accent uniquement sur les choses qui nous concernaient pour cette présentation. Donc, j'ai indiqué ici l'URL source, c'est de façon accessible de manière publique pour vous y référer. À noter que TFS fait partie de toute façon, quand vous achetez Visual Studio 2012, avec MSDN, que ce soit en Ultimate jusqu'à Pro, vous avez le droit d'utiliser TFS en production. D'accord. Bon, pour plus de détails, je vous invite à échanger avec les gens de Microsoft, qui seront un plaisir de vous renseigner là-dessus. Donc, au niveau de ma présentation, ce que je souhaitais vous montrer est fait. Je suis à votre écoute pour des questions. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez. Oui. 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 En fait, comme on va travailler plutôt sous forme de workshop, vous aurez un rôle finalement de faire parler vos différents business analysts pour finalement. Pardon ? Non, mais le but, c'est quand même pas des outils, individuels, c'est vraiment un outil en collaboration. On va travailler ensemble pour avoir finalement toute l'équipe produire un livrable. C'est un peu ça l'idée de. Parce qu'en fait, l'outil de storyboarding, c'est vraiment un plugin, enfin un add-in qui s'ajoute à PowerPoint. D'autres questions ?
Oui, allô. Oui, pour passer de 2010 à 2012 avec TFS, les upgrades sont.
Bon, c'est un processus enfin, extrêmement simple. Il n'y a pas eu de grands bouleversements en termes de base de données. Donc, c'est faut. En fait, ça va plutôt être vous dans les choix de mise en œuvre. Enfin, dans quelle fonctionnalité vous voulez mettre en œuvre finalement TFS 2012. Si c'est simplement de l'ISO fonctionnel, si vous voulez rajouter d'autres fonctionnalités. En fait, c'est plutôt là où on aura une petite phase d'étude. La migration purement technique est extrêmement rapide. Ouais, c'est du wizard, quoi.
Dans ce que vous avez montré, il n'y avait pas de lien avec SharePoint.
J'ai montré le lien avec SharePoint, oui.
Là, c'était sur SharePoint, le site TFS, là.
Il faut en fait avoir SharePoint, même SharePoint Foundation, qui tourne sur un des serveurs. Oui. Avec, en plus, en termes de processus d'installation, on va devoir installer des extensions TFS pour SharePoint. Mais c'est quelque chose de de relativement simple. Vous n'avez pas SharePoint?
Si, mais ça marche pas toujours facilement.
Bon, il faudrait peut-être regarder si vous avez des points particuliers. Ouais, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, quoi.
Merci. Est-ce qu'il y a des outils pour l'utilisateur pour qu'il puisse donner des feedbacks spontanés? Parce que là, on a vu qu'on fait des requêtes pour les feedbacks, mais si l'utilisateur, il va toujours tester un peu plus que ce qu'on lui demande en général.
En général, ben c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il a vraiment de la demande et qu'il a envie d'avoir une belle application. Donc, il est possible, une fois qu'on a installé le feedback manager, il est installé sur le poste et le client peut spontanément faire un feedback. Ça fonctionne, oui. Bon, en fait, une fois que vous avez fait le storyboard, c'est des objets PowerPoint. Le document après est complètement autonome. Là, je l'ai mis dans SharePoint pour avoir le lien avec les user stories, mais vous pouvez le prendre, le copier, ou en extraire des morceaux pour les mettre dans du Word ou dans n'importe quel document. Il n'y a aucun problème. Après, c'est simplement le lien avec le work item. Voilà, il faut garder toujours ce lien au niveau de. Il faut qu'il y ait une source qui soit liée entre le user story et le storyboard PowerPoint. D'autres questions?
Concernant SharePoint, est-ce que c'est préférable d'utiliser la 2010 ou celle qui est sortie actuellement, la 2013? Est-ce qu'il y avait des incompatibilités lors de l'installation de la 2010, la première fois?
Bon, à l'heure actuelle, toutes les machines, voilà, c'est installé avec la version 2010. Donc, bon, voilà, je serais prudent peut-être. Enfin, je sais pas, c'est à voir en fonction de votre logique de migration, enfin, chez vous, quoi. Enfin, vraiment, faut combiner les deux. C'est destiné à fonctionner ensemble avec 2013. Mais là, pour l'instant, même au niveau de ma machine virtuelle, les machines de démonstration sont faites encore avec 2010. Mais après, de toute façon, il y a eu un petit souci à un moment donné. Mais là, maintenant, c'est opérationnel, quoi. Très bien, s'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie.